Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée au Mexique et aux élections générales de demain dimanche, considérées comme les plus importantes de ces dernières années. Le favori de la présidentielle est Andrés Manuel López Obrador, chef d'une coalition appelée Ensemble nous ferons l'histoire, déjà candidat de reprise avec son air d'incorruptibilité qui enchante de nombreux Mexicains. Andrés Manuel López Obrador promet une révolution radicale, ce que d'aucuns voient comme une menace. Le deuxième plus grand pays d'Amérique latine pourrait bien dimanche rejoindre le club des démocraties dont l'électorat s'est rebellé contre l'ordre établi, car ce qui est sur le point de se passer au Mexique a des airs de déjà-vu ailleurs, comme l'élection de Donald Trump aux États-Unis, le vote britannique de sortie de l'Union européenne ou le virage populiste en Italie. Regard et analyse avec nos invités par téléphone. Depuis Mexico, Paola López Caballero, historienne et anthropologue, chercheuse au CNRS, rattachée aux séries de Sciences Po et à l'UNAM, l'Université nationale de Mexico. Bonjour.
Bonjour.
Et en studio à Paris, Alain Rouquier, politologue, ancien ambassadeur de France au Mexique, directeur de recherche émérite aux séries Sciences Po et auteur de Le Mexique, un État nord-américain, paru chez Fayard. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Rives Loye, auteur de Drogue et pouvoir du Mexique au paradis, sociologue, chercheur à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et enseignant à Paris 1 et Paris 3. Bonjour.
Bonjour.
L'élection de demain, dimanche, 1er juillet, un scrutin général au sens le plus étendu du terme. Le Mexique et ses 88 millions d'électeurs doivent désigner demain, outre leur président, plus de 18 000 responsables au niveau fédéral, régional et local. La criminalité est un sujet central du scrutin. Plus d'une centaine d'élus, candidats ou hommes et femmes politiques ont été tués depuis le début de la campagne. Paola López Caballero, vous qui êtes sur place à Mexico, quel regard portez-vous sur la campagne? Qu'a-t-elle reflété, cette campagne, de la situation qui prévaut aujourd'hui, en 2018, au Mexique?
D'abord, merci pour cette invitation. Il faut voir qu'au début de la campagne, il y avait une énorme méfiance et voire un énorme désenchantement vis-à-vis de la politique électorale. Le fait qu'au début, il y ait la candidature de Mari Chuy, cette candidate autochtone, qui était proposé par les SLM, était en quelque sorte une réponse non électorale de participation politique qui, à la fin, n'a pas réussi à devenir candidate officielle. Et c'est à ce moment-là, je trouve, quand l'option vraiment alter politique n'a pas marché, que Andrés Manuel López Obrador a commencé à vraiment devenir une sorte de possibilité d'espoir de changement. Et je dirais que si jusqu'en février, mars, il était encore perçu comme faisant partie de la façon traditionnelle de faire de la politique, que les élections ne représentent pas de véritables changements, peu à peu, cette image a réussi à changer. Les jeunes ont commencé à être impliqués par la politique, ce qui n'était pas du tout le cas, par exemple, dans les dernières élections qui ont eu lieu en 2015, pas pour le niveau fédéral, mais pour les niveaux locaux. Et après, la présentation de son équipe de travail, si jamais il gagnait, a fait un basculement également.
Alors, la candidature de l'EZLN que vous évoquiez à l'instant, Paola López Caballero, on est bien d'accord, il s'agit du mouvement zapatiste qui était né en 1994 au moment de la signature et de l'entrée plutôt en vigueur de l'ALENA. C'est de cela dont il est bien question.
Exactement. Et à la fin de 2017, ils ont proposé de participer en tant que candidat, avec une candidate indépendante, représentée par une femme autochtone, Mari Chuy, qui cherchait à être inscrite comme candidate autochtone, ce qu'elle n'a pas réussi. Donc je trouve que là, il y a eu un basculement, il y a eu tout un ensemble de circonstances. Mais un premier basculement, c'est que cette gauche anti-électorale, tout d'un coup, s'est trouvée un peu son candidat, et que peu à peu, López Obrador a réussi à les rassembler et a commencé à représenter une sorte d'alternative à la politique, disons, traditionnelle. De ce point de vue, il me semble que la comparaison avec Trump et avec le Brexit n'est pas aussi pertinente. J'espère que ça induit à plus de confusion que l'éclaircissement. Bon, évidemment, les contextes sont différents, etc., mais principalement parce que il s'agit d'un véritable leader social, en quelque sorte, à la différence de Trump, radicale différence. qui a plus de 30 ans travaillé en politique et qui effectivement a une trajectoire qui n'a pas été entachée, qui n'a pas réussi à être, je veux dire, il cherche comment entacher cette trajectoire, leurs adversaires sans réussir. Donc, il me semble qu'il y a un discours qui pourrait être qualifié de populiste. En même temps, il me semble que c'est un leader social qui, je dirais, pour la première fois dans l'histoire du Mexique, va réussir à gagner les élections. Je veux dire, le président précédent n'était pas des représentants sociaux qui venaient d'ailleurs de la politique. Et l'autre chose qui me semble qui se révèle avec cette élection, c'est que justement le taux de violence dont vous parliez, plus de 200 000 morts depuis 2017, presque 30 000 dans cette année. Quelque part, quand on voit la force que peut avoir l'élection de López Obrador aujourd'hui, on réfléchit à ce qui s'est passé en 2006, quand, quelque part, le statu quo ne l'a pas laissé gagner.
On développera, Paola López Cabello, on reviendra sur les questions de violence. Je vais demander à Alain Rouquier de réagir à ce que vous venez de dire. Par rapport à j'ai bien compris que la comparaison n'était pas, en tout cas, tout à fait appropriée, que j'évoquais en début d'émission sur un électorat mexicain qui se rebelle contre l'ordre établi à l'image de ce qui s'est passé aux États-Unis ou en Grande-Bretagne avec l'Union européenne. Alain Rouquier, Andrés Manuel Pérez Obrador, favori de cette élection. C'est la troisième fois qu'il se présente à l'élection présidentielle.
Oui, je...
Et sa présence en tant que favori met dans l'ombre deux partis historiques au Mexique, que sont le PRI et le PAN.
Ça va plus loin que ça. C'est pas simplement rejeter le PAN et le PRI, c'est manifester en quelque sorte le double échec, d'abord de la reconversion du PRI, le parti traditionnel.
Parti révolutionnaire institutionnel.
Qui a trompé son monde pendant 70 ans quand même, il faut bien reconnaître. Qui a fait des promesses qu'il n'a pas tenues, qui a dit le contraire de ce qu'il allait faire, qui s'est présenté comme un parti, disons, de gauche, socialiste, qui allait faire des réformes et qui a travaillé pour les riches, il faut bien reconnaître. Et puis, l'échec de la démocratie et de l'alternance de 2000.
Avec l'arrivée au pouvoir
le Parti d'Action nationale avait certainement de bonnes idées. Peut-être Vicente Fox a fait une présidence tout à fait acceptable, mais la présidence de Calderón a été une catastrophe, parce qu'il s'est lancé, pour faire plaisir aux Américains, parce qu'il avait été mal élu, dans la guerre contre la drogue, avec une incapacité de la faire, parce qu'il n'avait pas les instruments pour cela. Il n'avait pas la police formée, il n'avait pas les forces de sécurité, et il n'avait pas le renseignement qui était nécessaire. Eh bien, là, dans cette campagne, c'est pour ça que ces élections sont importantes, elles me semblent aussi importantes que l'alternance de 2000, et aussi importantes que le tournant de 1988, qui a été avec Salinas Gortari, le tournant libéral, et le début de la négociation de l'accord de libre-échange avec les États-Unis, c'est-à-dire de l'intégration économique au-delà du commerce de l'économie mexicaine avec l'économie américaine. Là, face à tous les défis que le Mexique doit affronter, les électeurs vont certainement manifester leur déception, leur rejet d'un système dans lequel le Parti d'Action nationale s'est totalement intégré. Le système PRI existe toujours. Alors, est-ce que c'est López Obrador qui peut le démonter, le transformer? Il parle de quatrième transformation. La première, c'était l'indépendance. La deuxième, c'était la réforme, c'était Juárez. Et la troisième, c'était la révolution. Et moi, je suis la quatrième. Bon, on verra. On ne sait pas exactement ce qu'il pense. On ne sait pas quel est son programme. On sait quels sont ses appuis, mais non, quel est son programme. Alors, est-ce qu'il est capable de faire cette quatrième transformation, de casser le système PRI qui existe toujours, qui fonctionne toujours, avec ces réseaux tentaculaires d'obligés, ces syndicats qui sont corrompus, presque tous. Et là, on a des questions à se poser autour de la personnalité de López Obrador, qui a, pour lui, un certain nombre d'avantages. Il a été un très bon maire
de Mexico.
À Mexico, il s'occupait des pauvres. Il y avait une conférence de presse tous les matins à 7h pour dire ce qu'il allait faire dans la journée et ce qu'il faisait. Il a donné des retraites ou subventions, peu importe comment on l'appelle, aux vieux travailleurs qui n'avaient pas de pension. Il a été parfaitement honnête. Personne n'a jamais dit qu'il avait mis de l'argent dans la poche. Il y a eu autour de lui des gens qui, évidemment, comme toujours, n'étaient pas d'une honnêteté scrupuleuse, mais lui, jamais. Et en plus, pour la première fois, il représente le Sud. Il représente le Sud, c'est un homme du Tabasco. Et vous savez, le Tabasco, je le connais, c'est un État extrêmement pauvre. C'est un État indien, un État très pauvre. Il a voulu être gouverneur du Tabasco, il n'a pas réussi à l'être. D'ailleurs, il avait fait une marche sur Mexico à ce moment-là, tout à fait impressionnante, il n'a servi strictement à rien. Mais c'est un homme qui manifeste pour les pauvres, pour les oubliés. Et ça, évidemment, c'est très sensible dans un pays à un moment où il y a eu toute une série de tromperies. La première tromperie, c'est le régime. Bon, vous savez que l'Alliance disait que c'était la dictature parfaite, parce que sous les aspects démocratiques, bah, c'était une démocratie, bien qu'il y ait le pluralisme, et le pluralisme rejeté à la périphérie. Et puis, ils ont été trompés par l'accord de libre-échange nord-américain, qui a développé les zones nord et qui a laissé à l'abandon. Ce sont deux pays, maintenant. Ce sont deux pays aux Allemands, ils sont en train de côté, et puis une sorte d'Amérique du Nord pas tout à fait réussie au Nord. Et en outre, on a fait croire que par l'ALENA, par le traité de libre-échange, les Mexicains allaient devenir des Nord-Américains. Or, en 1994, l'écart entre le salaire horaire mexicain et américain était de 1 à 7. Et aujourd'hui, il est de 1 à 6. Bon. Là, je crois que la déception ne peut être qu'immense. Et est-ce que López Obrador pourra porter cette déception énorme, cet espoir énorme ?
Alors,
point d'interrogation.
D'abord, des incertitudes sur le scrutin de demain. Vous le disiez, Alain Rouquier, Monsieur Pérez Obrador a été maire de Mexico. On peut se poser la question de savoir pourquoi, dans la foulée, il n'a pas pu, s'étant présenté à la présidentielle, être élu. Il y a plusieurs incertitudes, Jean-Yves Le Roy. D'une part, le taux de participation à l'élection. D'autre part, les risques de fraude.
Oui, je minimiserai les risques de fraude parce que l'élan populaire en faveur de López Obrador est vraiment très important à l'heure actuelle. Et au Mexique même, on ne doute pas, tous les commentateurs, personne ne doute que López Obrador va remporter cette élection. Maintenant, il ne sera jamais que le président de la République. C'est-à-dire qu'il faudra voir les autres élections qui vont se dérouler le même jour, et notamment voir s'il va avoir la majorité au Congrès. Parce que s'il n'a pas la majorité au Congrès, il ne pourra pas gouverner, ou il sera obligé de composer comme ont dû le faire certains de ses prédécesseurs. Donc, il y a ça, et il va y avoir une forte résistance à son élection. Parce que, pour la première fois au Mexique, comme le précisait M. Rouquier, on risque, ou c'est pas un risque d'ailleurs, ça va arriver, on va avoir un président de gauche, véritablement de gauche. Jusqu'à présent, tous les partis politiques de gouvernement étaient des partis qui avaient accepté le système politique qui structure le Mexique. Et lui, López Obrador, remet ce système politique, dit remettre ce système politique en question. Et c'est en ce sens que son élection représente, on peut dire le mot, si vous voulez, au Mexique, c'est ça. Son élection représente une révolution. Parce que le système politique priiste est ce qui fonde le Mexique à l'heure actuelle depuis 1929, n'est-ce pas ? Donc c'est devenu une culture politique. Et l'alternance politique qu'il y a eu en 2000 n'a été qu'une alternance, d'une certaine manière. Le PAN a reproduit le système politique qui existait auparavant. Or là, nous n'en sommes plus là, puisque López Obrador, lui, ce qu'il veut faire, ce à quoi il veut parvenir, c'est à une alternative politique. C'est-à-dire à un changement de système politique. Alors, ce système politique, qu'est-ce qui le caractérise ? Ce qui le caractérise, c'est le clientélisme. D'abord, le clientélisme. Alors, je vous rappelle que le clientélisme, ça veut dire la faveur supérieure au droit. N'est-ce pas ? Nous ne sommes pas dans un état de droit, nous sommes dans un état de faveur. Ça veut dire qu'il n'y a pas égalité devant la loi. C'est quand même fondamental, n'est-ce pas ? Deuxième caractéristique du système politique mexicain, qui nous concerne directement, c'est l'intégration des marges au système politique mexicain. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le pacte politique. On ne peut pas être en dehors du système. Si on est en dehors du système, on est un ennemi du système et on est susceptible d'être éliminé physiquement, politiquement. Donc, les marges à l'heure actuelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, une partie des marges, ce sont les cartels de la drogue. Les cartels de la drogue, comme les autres acteurs politiques traditionnels, ont été intégrés au système politique mexicain.
Il y a fusion, c'est ça qu'il faut comprendre.
Ce n'est pas une fusion. Il y a différence de statut. Les trafiquants de drogue sont considérés comme des entrepreneurs. Ce sont des entrepreneurs illégaux, criminels, ce que vous voulez, mais ils dégagent des bénéfices. Une partie de ces bénéfices devait être intégrée dans le système politique pour alimenter le clientélisme et l'enrichissement personnel des élites politiques.
Système politique et économique, on est bien d'accord.
Alors, j'arrive à ça, il y a deux pactes. Il y a eu un pacte économique à partir de Salinas qui a fait que, effectivement, les bénéfices des narcotrafiquants ont été intégrés dans l'économie nationale, justement en prévision de l'adhésion à l'ALENA, pour que le Mexique soit plus fort au moment où il allait entrer donc dans cet système de libre-échange. Donc, on en est là. Il faut briser ces deux pactes, le pacte politique et le pacte économique. Et ça va être la tâche de López Obrador lorsqu'il sera élu, mais pas simplement de López Obrador, c'est-à-dire du peuple mexicain. Il faut que le peuple mexicain accepte de remettre en cause le système politique sur lequel se fonde la légitimité.
Alors justement, je me tourne vers vous, Paola López Caballero, on a bien compris, d'une part, la tâche immense qui attend M. Pérez Obrador s'il est élu demain dimanche, avec ce besoin, s'il veut parvenir un tant soit peu à changer les choses au Mexique, d'avoir une majorité au Congrès. Là-dessus, comment les sondages se positionnent-ils et est-ce qu'il a des chances d'avoir la majorité au Congrès? Et au-delà, pour rebondir sur ce que vient de dire Jean Rivelois, quel est l'état d'esprit du peuple mexicain aujourd'hui, des Mexicains aujourd'hui?
Alors, je voudrais juste rebondir un tout petit peu sur ce qui vient d'être dit. Par rapport à cette déstructuration du prix dont parlait M. Ruquier, il me semble qu'il y a déjà beaucoup d'indices qui montrent cette déstructuration, peut-être pas absolue, évidemment, mais qui commence à se fracturer, déjà du fait du candidat qu'ils ont dû choisir, qui est un homme technique, qui ne sait pas faire de la politique, qui n'a pas ce charisme, qui d'ailleurs n'a pas été un bon choix de candidat. On a l'impression que c'était le seul qui était à peu près présentable. D'une autre part, comme vous disiez aussi, cette incorporation du PAN envers dans le système prix, disons, a entraîné autant le PAN que le PRD, qui de fait sont deux partis qui vont être, on ne sait pas ce qui va être, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont devenir. Je veux dire, le PRD ayant eu presque un tiers de députés en 2012, cette élection, il n'aura pas plus que 20 sièges dans le députés. Donc, il y a une véritable le triomphe très probable de Andrés Manuel López Obrador entraîne également une déstructuration des partis du PAN et du PRD qui ont un candidat en alliance contre toute attente et même le prix.
Alors, non, on va s'arrêter sur cette notion, Paola López Caballero, de déstructuration du Parti révolutionnaire institutionnel et des deux autres partis que vous évoquiez à l'instant, le PRD et le PAN, pour terminer cette première partie d'émission. Et nous vous retrouvons après le journal, dans quelques instants.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur le Mexique à l'occasion des élections générales de demain dimanche, considérées comme les plus importantes de ces dernières décennies. Nous retrouvons nos invités par téléphone depuis Mexico, Paola López Caballero, historienne et anthropologue, chercheuse au CNRS rattachée aux séries de Sciences Po et à l'UNAM, l'Université nationale de Mexico, Alain Rouquier, en studio à Paris, politologue, ancien ambassadeur de France au Mexique, directeur de recherche aux séries Sciences Po et auteur de Le Mexique, un État nord-américain chez Fayard. Jean Rivelois, sociologue, chercheur à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, enseignant à Paris 1 et Paris 3 et auteur de « Drogue et pouvoir du Mexique au paradis » paru aux éditions L'Harmattan. Paola López Caballero, je vous redonne la parole après cette première partie d'émission dans laquelle nous avons un peu détaillé la position d'Andrés Manuel Pérez Obrador dans le scrutin de demain. Il est le grand favori. Vous évoquiez la déstructuration des partis traditionnels mexicains, le Parti révolutionnaire institutionnel, le PRD, également le PAN. Jean Rivelois nous disait que si M. Pérez Obrador voulait mener à bien les réformes qu'il souhaitait, il avait besoin, c'est évident, partout dans le monde, d'une majorité au Congrès. Quelles sont ses chances d'obtenir cette majorité au Congrès? Et dans quel état d'esprit se trouve le peuple mexicain aujourd'hui par rapport à cette élection?
Juste pour fermer l'idée précédente, je crois que cette déstructuration du prix est en grande partie due au prix même, à ce dernier gouvernement. Bon, quant au Congrès, les statistiques de la Caméra de commerce disent qu'il est presque à la majorité, probablement. Mais en tout cas, il va être la première force dans le Congrès, c'est presque sûr, et le parti le plus voté, en plus de la ville de Mexico, qui n'est pas peu, et aussi 5 gouverneurs des États fédérés qui ont été élus par le PAN en 2015 ont déjà signé un accord entre eux pour se présenter à collaborer avec López Obrador. Donc je crois qu'il y a une très grande possibilité de gagner demain avec une légitimité hors du commun, vraiment, vraiment hors du commun, avec un capital politique exceptionnel, il me semble, dans l'histoire du Mexique, voire ailleurs. Et de ce point de vue, l'esprit, je dirais, au Mexique, il y a une polarisation, bien sûr, mais jamais comme avant. En 2006, cette polarisation a été vraiment très tendue et justement, les résultats ont été de 2 ou 3 points pourcentuels. Cette fois-ci, il y a une certaine polarisation qui a été favorisée par les autres partis, mais franchement, je dirais, hier, sa fermeture de campagne a été au Stadium de Mexico, avec plus de 100 000 personnes réunies là. Je dirais qu'il y a un vrai sentiment d'espoir, de préférer à être déçu après, que de ne pas avoir de l'espoir, quelque part, je dirais.
Alain Rouquier, un commentaire?
Bon, la décomposition du prix, ça fait 40 ans que ça dure. Ça n'a pas empêché de revenir au pouvoir. Et on a vu rapidement qu'il ne s'était pas rénové. Je me souviens quand le président Peña Nieto a présenté toute une série de jeunes gouverneurs fringants qui étaient des gens extraordinaires. Ils sont en prison, ils sont en fuite pour des corruptions gigantesques, premièrement. Deuxièmement, c'est un parti d'opportunistes. Donc, s'il y a un président en plus qui vient du prix, ils se feront un plaisir d'aller présenter au président leur personnalité, leurs espoirs et leurs compétences, et surtout à la Chambre des députés et au Sénat, ça ne fait aucun doute. Par ailleurs, comme ça vient d'être dit, le PRD, pas seulement le PRD, mais le PRD est dans une alliance contre nature. Le PRD, c'était les dissidents de gauche du prix, dont était M. López Obrador, plus le Parti communiste. Et maintenant, ils sont en alliance avec un parti de droite conservateur, plus ou moins démocrate chrétien traditionnel. On n'a jamais vu ça nulle part. On peut dire aussi la même chose de M. López Obrador, qui a un petit parti évangéliste qui est contre les homosexuels, contre l'avortement, etc., avec un candidat de gauche. Mais moi, j'ai vu les derniers sondages, 45% à peu près pour López Obrador et 50% pour la Chambre des députés. Donc, s'il a passé 50%, il aura des dissidents PRD, des dissidents du prix, des dissidents de partout. Il y en a eu déjà pendant la campagne, quand ils ont vu que López Obrador avait des chances de gagner, il en aura encore plus après. C'est comme ça que fonctionne la politique en général, et au Mexique en particulier. Donc, on ne peut pas avoir de crainte de ce côté-là, d'autant plus que les partis perdants, étant le prix, ne seront pas des oppositions très virulentes. Au contraire, le prix aura pris une telle gifle. Vous savez que le prix n'a pas été capable de présenter un des siens comme candidat. Il a pris un technocrate, n'est pas un militant du PRI, jamais. Il a été ministre, c'est tout. Donc, je ne pense pas que le PRI soit une opposition extrêmement difficile à contrer.
Alors, parti d'opportuniste, c'est ce que je retiens de ce que vous venez de dire, Alain Rouquier. Jean Rivelois, un commentaire. Après ça, on parlera peut-être du programme de Andrés Manuel López Obrador. Et les auditeurs m'auront pardonné dans mon erreur de début de présentation du favori pour cette présidentielle mexicaine, Jean Rivelois.
Il faut aussi compléter en disant que l'actuel candidat du PRI, Monsieur Midé, a été ministre de l'actuel président de la République, mais il a également été ministre de l'ancien président qui était lui-même paniste. Donc, si l'on prend ça en considération avec le fait que il y a une alliance contre nature entre le PAN et le PRD, eh bien, à travers la candidature de Monsieur Anaya, qui représente le PAN et qui est soutenu donc par le PRD, c'est-à-dire par la soi-disant gauche, on cherche la gauche, quoi. C'est-à-dire qu'on aboutit à un brouillage complet du paysage politique mexicain. C'est-à-dire que les trois partis traditionnels de gouvernement ne sont plus perçus comme tels par le peuple mexicain, si vous voulez. Donc, ils sont déconsidéré, délégitimé, et finalement il ne reste plus sur l'échiquier politique, fidèle à lui-même, fidèle à son programme, fidèle à sa personnalité, que López Obrador. López Obrador, dont il faut signaler que en 2006, il est fort probable que la victoire lui a été volée par Monsieur Calderón. Des manifestations gigantesques ont été organisées à Mexico à cette occasion et tout. On ne revient pas là-dessus. Calderón a gardé le pouvoir et pour se relégitimer, il a engagé la guerre contre la drogue qui a complètement détruit la confiance du peuple mexicain envers ses gouvernants. C'est ça le plus important. Les Mexicains n'ont plus confiance dans les partis politiques traditionnels et plus généralement dans les gouvernants politiques traditionnels, dont il faut quand même mentionner, M. Rouquier l'a fait précédemment, un acteur qui est un acteur clé du système politique mexicain, c'est le gouverneur. Et l'assemblée des gouverneurs, si vous voulez, détient plus de pouvoir que le président de la République à l'heure actuelle. C'est-à-dire que s'il y a une ligue des gouverneurs contre le président de la République, le président de la République ne pourra pas agir. Et parmi ces gouverneurs les plus importants sont des gouverneurs priistes qui se situent dans les zones les plus conflictives du pays.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire la frontière
avec les États-Unis.
C'est-à-dire la bordure pacifique, et notamment la Tierra Caliente, c'est-à-dire la péninsule, toutes ces zones où passent les routes de la drogue et où il y a des cultures illicites. Si moi je sais où sont les cultures illicites, vous pensez bien que toutes les autorités le savent. Il n'empêche qu'on les laisse faire. Le Guerrero, qui est l'état le plus conflictif du Mexique à l'heure actuelle, était gouverné par la gauche. L'affaire Ayotzinapa d'Iguala, la disparition des 43 étudiants, le maire était PRD, le gouverneur était PRD. On savait qu'il y avait ces groupes criminels qui dominaient sur le plan local ou qui étaient instrumentalisés par les autorités locales. Si moi je le savais, vous pensez bien que le gouverneur le savait aussi. On laissait faire. Est-ce que ce laisser faire est supportable d'une manière indéfinie? Ça, c'est le vrai défi de López Obrador.
Alors justement, Paola López Caballero, se laisser faire a dû générer, on l'imagine, un état d'exaspération assez profond de la population mexicaine qui, par ailleurs, a été contrainte de s'organiser. Quel est, par rapport à cette question de la corruption, du trafic de drogue, de la violence, l'état d'esprit aujourd'hui, j'en reviens à ma question précédente, de la population mexicaine, Paola López Caballero?
Disons que le discours sur la sécurité. Disons que c'est comme ça que ça s'englobe dans le discours public ici. On a un problème de sécurité. Ce problème de sécurité peut être lié à la violence du narcotrafic, peut être lié effectivement à la corruption et peut être lié à la pauvreté. Et il me semble que bien que comme il a été dit, c'est vrai que qualifier de gauche M. López Obrador est de plus en plus compliqué étant donné les alliances qu'il a fait, notamment avec le parti évangélique, qui va être un acteur d'importance les prochaines 6 années du fait du nombre de sièges qu'il aura au Congrès. Mais bon, au-delà de ce fait, lorsque l'on voit le programme qu'il a proposé, autant pour essayer de commencer à résoudre le problème du narcotrafic que pour le problème de corruption, on a l'impression, et je crois que c'est ça qu'il a réussi à offrir, d'une clarté sur le problème situé au niveau social. Un problème de manque d'opportunités pour les jeunes, il y a vraiment une attention explicite et particulièrement forte sur les politiques adressées aux jeunes, qui en même temps est très stratégique, étant donné que la base électorale est la plus jeune depuis 50 années, et qu'en plus, effectivement, c'est un problème majeur en termes d'éducation, de possibilités de travail, de développement, etc. Ils ont proposé une justice d'amnistie pour essayer de restructurer localement la violence. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments. Et puis, López Obrador a eu aussi le geste d'informer à ses électeurs avec qui il gouvernerait. Et je crois que ça aussi, ça a donné beaucoup de clarté et ça a permis d'avoir une sorte de caution sur cette image qu'il avait de rebelle, de ne faire qu'à sa tête. Et c'est très significatif que dans ce programme, il y a beaucoup de femmes, et notamment de femmes qui ne sont pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'il propose. Donc, il a réussi à montrer une image beaucoup plus dialoguante, beaucoup plus claire, de la personne qui a une équipe qui va savoir quoi faire. Et les gens ici ont été très sensibles parce que, disons que après, j'aurais l'impression qu'après la Jotinapa qui vient d'être mentionnée, on a perdu le président. On n'a pas eu de président, on n'a pas eu de gouvernement, de direction vraiment. Donc les gens espèrent quelqu'un qui va savoir où mener ce pays, où mener ces gens. Et il a réussi à transmettre cette image. Bon, est-ce qu'il va le réussir? On ne le sait pas, mais au moins, les gens ont l'impression qu'il a les éléments pour le faire. Après, ce qu'il va pouvoir le faire, c'est la grosse question et c'est ce que tout le monde attend d'avoir. Mais je crois que les gens vont voter pour la première fois depuis très longtemps avec la croyance que quelque chose peut changer.
Alors, Alain Rouquier, peut-on qualifier López Obrador de candidat de gauche? Paola López Carriello posait la question. Vous l'avez dit tout à l'heure, il serait le premier président né au sud de Mexico depuis un demi-siècle. Il veut rééquilibrer les choses. Il promet d'éliminer la corruption et non de la réduire, donc éliminer. Bon, elle a toujours existé, la corruption au Mexique. Elle est aujourd'hui devenue plus visible. Vous êtes optimiste après tout ce qui s'est dit jusqu'à présent et cette maintenance dans les postes de gouverneur, de membres du PRI, de membres du PAN, du PRD, etc. Comment est-ce que López Obrador peut sortir le Mexique de cette impasse, finalement?
D'abord, il va avoir un soutien électoral fort. Je le sais, je ne suis pas à Mexico, mais j'ai des amis à Mexico. Des amis qui étaient terriblement anti-López Obrador lorsqu'il s'est présenté contre Calderón en 2006, mais qui étaient férocement et qu'il exprimait dans les journaux. Aujourd'hui, ils expriment dans les journaux le contraire, en disant, en dehors de López Obrador, je vois pas ce que le Mexique peut devenir. C'est un vote de résignation, et ça sera un vote sanction. Et un vote sanction, ça ne fait pas de cadeau. Un vote sanction, c'est pas un crédit. C'est sur le moment. On a assez, on manifeste, c'est une sanction. C'est un vote de contestation, on n'en veut plus. Et cet homme qui est là, eh ben, bon, ben c'est lui. C'est un vote de résignation, c'est pas un chèque en blanc, et ça sera très difficile pour López Obrador. Très difficile pour plusieurs raisons. D'abord, est-ce que c'est un homme nouveau? Non, pas un homme nouveau. La rénovation faite par un homme de 64 ans, ce qui est relativement jeune, mais qui a été dans la vie politique, dans le prix, et puis dans les partis qui ont succédé au prix, comme le PRD, depuis 1970, on ne peut pas dire, il a beaucoup appris. C'est un homme d'expérience. C'est un homme qui ne fera pas de choses inconsidérées. D'ailleurs, son agressivité qu'on avait vue en 2006, en 2012, a beaucoup baissé. Aujourd'hui, c'est comme Lula en 2002, c'est amour, love, etc., etc. Vous savez, quand on a essayé de déconsidérer, non, c'est Chavez, c'est grotesque. Ça n'a pas marché, d'ailleurs. Ça n'a pas marché, parce que Chavez était un outsider, c'était un militaire qui essayait de faire un coup d'État. Lui, c'est un homme d'État.
Donc ce serait plus à Lula qu'à Chavez, c'est ça que vous dites aussi, Alain Rouquier.
Mais oui, parce que Lula faisait peur à tout le monde. Et il faisait peur par ce qu'il y avait dans son parti, des trotskistes, des maoïstes, des communistes, etc. Et puis, une fois arrivé au pouvoir, il a gouverné sainement, pour tout le monde, finalement. Et tout le monde a été content. Il a eu deux mandats, puisque c'était possible au Brésil, ce qui n'est pas possible au Mexique. Donc, il aura une possibilité d'un appui parlementaire, d'un appui populaire. Mais après, il y a différentes interprétations de ce que peut faire M. López Obrador. Il y a ceux qui sont déconvertis par résignation ou qui disent finalement la marge de manœuvre ici est étroite, qu'il ne fera rien de terrible. Et d'ailleurs, la preuve, c'est ce qu'il a dit au sujet de la relation aux États-Unis. Souvent, on dit c'est un nationaliste, que Chavez, l'impérialisme. Jamais, jamais, j'ai entendu des discours publics de M. López Obrador, jamais une attaque des États-Unis.
On développera dans l'émission de demain.
Il est bien mexicain, il sait de quoi il parle. Mais même si on laisse...
Juste un petit mot, Lula, vous disiez qu'il avait gouverné sainement, il est tout de même en prison aujourd'hui, mais bon,
oui,
on ne va pas rentrer dans les
considérations. Mais ça n'a rien à voir avec ses deux premières présidences. S'il y a un procès, c'est pour des événements qui se sont passés après. Mais il faut dire qu'il y a eu une évolution un peu de l'homme qui faisait peur à l'homme qui crée la confiance. Un peu comme Lula, c'est tout ce que je veux dire à ce propos. Mais certains considère que dans ses propositions, dans ses discours, dans son ébauche de programme, quand c'est à peine une ébauche de programme, et dans la dénonciation de la mafia qui m'a volé la victoire, c'est le titre d'un de ses livres qu'il a publié en 2007, il y a une espèce de retour au passé, de retour au système pris d'avant 88, d'avant la libéralisation, la déréglementation, d'avant le processus d'intégration avec l'économie des États-Unis, et qui pense que ça peut être un saut en arrière. Et c'est vrai que cet homme a dénoncé le néolibéralisme, entre guillemets, à partir de 88, de manière parfois sans nuance. Et comme si le Mexique idéal, c'était celui d'Echeverría, des années Echeverría et de son successeur des années 70-80. Donc là, il y a un certain nombre de gens qui ont peur, non pas d'une aventure populiste scandaleuse, mais de voir le pays se fermer, se replier sur le modèle PRI d'avant, en plus honnête, en mieux géré, mais pas du tout une avancée vers un progrès et une déconstruction du système PRI.
Paola López Caballero, vous souhaitez ajouter quelque chose en guise de conclusion pour cette première émission consacrée au Mexique? Nous n'aurons pas la chance de vous avoir demain sur celle consacrée à la relation entre le Mexique et les États-Unis. Quelques mots en guise de conclusion, Paola López Caballero.
Écoutez, je viens juste de lire le rapport sur l'événement qui vient de fermer la campagne. C'est massive. Il réinsiste sur cette possibilité de changer avec honnêteté, avec toutes ces valeurs, en mobilisant des valeurs morales plus que politiques. Je crois que ça a été très parlant pour les gens. Je suis contente, non seulement parce qu'il va gagner, mais parce que j'ai la sensation que pour la première fois, effectivement, c'est les électeurs qui vont décider. Et malgré la tradition électorale qui existe au Mexique, ça, c'est une première quand même. Et il faut se réjouir. Merci beaucoup.
Merci Paola López Caballero. Je rappelle que vous êtes historienne et anthropologue, chercheuse au CNRS, rattachée aux séries de Sciences Po et à l'UNAM, l'Université nationale de Mexico. Merci aussi Alain Rouquier, politologue, ancien ambassadeur de France au Mexique, directeur de recherche émérite aux séries Sciences Po, auteur de Le Mexique, un État nord-américain, paru aux éditions Fayard, et Jean Rivelois, sociologue, chercheur à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, enseignant à Paris 1 et Paris 3, également auteur de Drogue et pouvoir du Mexique au paradis. Nous vous retrouvons demain, Alain Rouquier, Jean Rivelois, pour évoquer la relation entre les États-Unis et le Mexique, notamment, et la place du Mexique dans son environnement régional. C'est la fin de Géopolitique, une édition signée Marie-France Chatin, Nathalie Laporte et Marion Lestel.